explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Au départ, il y a un projet un peu fou, de ceux qui suscitent effroi ou admiration selon les regards. Ce projet, c'est celui de Capucine Trochet. Traverser l'Atlantique avec un petit bateau de pêche fait de jute et de matériaux de récupération. Taratari, c'est le nom de ce petit voilier, n'est clairement pas conçu pour une telle traversée. Pourtant, c'est la seule embarcation avec laquelle Capucine Trochet se sent capable de traverser l'océan. Cette idée lui vient alors qu'elle est au plus mal, terrassée par les souffrances que lui impose une maladie génétique rare. Au départ, il y a un projet un peu fou. À l'arrivée, il y a une aventure folle et belle, formidable exemple de résilience que raconte Capucine Trochet dans un livre intitulé « Taratari, mes ailes, ma liberté » aux éditions Artaud. Cet après-midi, l'intrépide navigatrice nous emmène à bord de son petit voilier de pêche, braver les tempêtes et savourer les éclaircies. Et en fin d'émission, nous rejoindra une vieille connaissance. Alexandre Poussin, nous l'avions suivi dans son tour de Madagascar à pied, en famille, accompagné d'une charrette à zébus. Nous allons le retrouver avec plaisir à l'occasion de la parution du premier tome du récit de cette épopée familiale, Madatrek. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est préparée par Claire Tesser et réalisée par Hélène Kouyoumdjan et Étienne Bertin, avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Un bivouac. Daniel Fievé.
Donc l'année a été un peu compliquée, mer agitée et puis du vent fort et ça va rentrer encore et ça rentre. Ça fait plusieurs heures que ça dure et ça fait deux nuits que je dors pas. Tout va bien. Et là je vois que Taratari va toujours à 5 nœuds alors que je vais affaler. C'est parfait. Donc voilà, je pense aller. On me met à l'abri.
Bonjour Capucine Trochet.
Bonjour.
Nous étions à bord de Taratari, votre petit bateau de pêche du Bangladesh, au large des côtes espagnoles en Méditerranée, avec en ligne de mire Gibraltar, pour ensuite traverser l'Atlantique. Quand vous entendez ces bribes de son, quelles images, quelles sensations vous reviennent, Capucine Trochet?
Le balancement, le mouvement du bateau sur l'eau, et puis ça me donne le sourire parce que je me ressens à bord et je me sens bien.
Ça vous donne le sourire. Pourtant, là, vous dites, vous n'avez pas dormi depuis deux nuits, vous êtes dans un mauvais temps. Pourtant, ouais, ça vous redonne le sourire.
Ça me donne le sourire parce que, certes, il y a des moments durs, mais c'est dans un ensemble, un contexte, quelque chose que j'aime. Ouais.
Alors, à ce moment-là, vous ne connaissiez pas encore le nom de la maladie génétique qui vous imposait des souffrances. Alors, pour comprendre ce que vous faisiez, malgré ces souffrances, seul, à bord de ce petit bateau de pêche fait de matériaux de récupération, qui n'avance vraiment pas vite sur cette mer Méditerranée agitée, parce qu'en plus on était en hiver à ce moment-là. Eh bien, pour comprendre, il faut remonter le fil de l'histoire, de votre histoire, Capucine Trochet. Alors que vous viviez à Paris il y a un peu plus de 10 ans, vous plaquez votre boulot, vous étiez journaliste, vous partez vous installer en Bretagne avec la ferme intention de vous mettre sérieusement à la voile. À cette époque, vous rêvez de vitesse, de compétition, vous vouliez faire la mini transat, c'est-à-dire une course de vitesse pour traverser l'Atlantique en solitaire et sans assistance. Vous achetez même un bateau, vous commencez l'entraînement. Et puis, patatras, votre projet s'écroule pour raison de santé. Qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, je me blesse à répétition. Je me luxe une rotule en déplaçant une voile dans un bog. Je me blesse en tombant dans le bateau en sortie de virement. À chaque fois, on me soigne, on m'opère, je me rétablis, j'ai toujours l'envie d'y aller. Et puis, rebelote, je me reblesse, j'ai les jambes qui ne vont pas. Donc, j'insiste et puis je vois des médecins qui finissent par me dire que je dois renoncer à ce projet de course au large.
Oui, c'est ça. Les médecins sont de plus en plus pessimistes, on vous opère et ça va de mal en pis. À ce moment-là, on le comprend, votre morale est au plus bas. Vous allez avoir un coup de foudre pour ce petit bateau. Comment ça se passe, cette rencontre avec Taratari, ce petit voilier?
C'est tout est une question, je pense, de moment. Je crois que la rencontre, il faut être disposé et disponible à l'accueillir. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je vois le chirurgien qui me dit, en gros, qui m'annonce que mon projet tombe à l'eau puisqu'il faut m'opérer l'autre jambe, ce qui signifie que je me qualifierai pas à temps, etc. Et dans la foulée, je me rends au salon nautique où je dois voir Corentin, parce qu'à ce moment-là, j'écrivais pour un site d'information en ligne.
Et alors,
je
voulais... Corentin, c'est Corentin de Châtel-Perron, le constructeur de ce bateau.
Le papa du bateau, ouais. Qui avait fait un beau périple à bord et qui présentait le bateau à Paris. Et on devait se rencontrer là. Et en fait, avant de le voir lui, j'ai surtout vu le bateau. Et là, ça a été comme une évidence. Et en fait, Corentin me dit « t'as une drôle de tête ». Et je lui dis « oui, bah, je viens d'apprendre que mon projet mini tombe à l'eau ».
Mini Transat, la course que vous vouliez faire.
Voilà la course, mais c'était vraiment l'aventure qui me plaisait dans cette course. Le slogan « un bateau, un homme, un océan », ça me parlait. Et puis Corentin aussi avait une drôle de tête. Et je lui dis « qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « je ne sais pas quoi faire du bateau quand je repars là, à la fin du salon ». Et du coup, après un mini silence, je lui ai dit « écoute, je vais faire ma mini avec Taratari, moi, je vais m'en occuper ». Et c'est on s'est dit bah oui, et puis en fait c'est ce qui s'est passé.
Ça se décide en trois fois rien, c'est un coup de foudre, c'est un projet un peu fou à ce moment-là. Faut dire à quoi ressemble ce petit bateau, hein. Il est pas bien grand, c'est un bateau expérimental que Corentin de Châtel-Perron a voulu faire.
C'est ça, un bateau qui est petit, qui est très bas sur l'eau, il y a pas de quille, il ressemble un peu à un canoë en forme de sourire. Il fait 9 mètres de long, mais 2 mètres de large au plus large, et surtout il est donc très très bas sur l'eau. Ce bateau est bien né, puisqu'il a été dessiné, enfin il est né dans les moules du chantier Taratari d'Ivmar au Bangladesh. De là naissent beaucoup de petits bateaux pour les pêcheurs du golfe du Bengale et dessiné par Marc Van Petegem et le cabinet VPLP.
Oui, alors avec quand même une particularité importante, c'est qu'il est sa coque est faite en partie en toile de jute. C'est une plante qui pousse au Bangladesh. On a voulu remplacer la fibre de verre par cette toile de jute. C'est une idée aussi écologique et puis peut-être d'avenir pour le Bangladesh.
C'est ça, c'est Corentin qui, en travaillant en bénévole pour le chantier d'Ivmar, a vu ces champs de jute et s'est dit et si on se servait de cette matière première pour comme on se sert du lin ou du chanvre en Europe pour fabriquer par exemple des bateaux. Et il s'est dit la meilleure manière de voir si ça marche, c'est d'essayer. Et donc avec le soutien d'Yves et de Marc, il s'est lancé dans ce projet. Donc il y a 40% de toile de jute, de jute dans le bateau et de la résine polyester pour solidifier tout ça. Et c'était un prototype.
Ouais, c'est un prototype, il a un sacré look ce bateau. On peut le voir sur la page Facebook du temps d'un bivouac. Si on veut se faire une idée avec une très jolie voile orange, il dessine effectivement un peu comme une forme de sourire. Et vous-même, avec ce bateau en forme de sourire, vous vouliez tracer un grand sourire pour traverser l'Atlantique. À ce moment-là, c'est votre idée. Elle ne va pas pouvoir se concrétiser tout de suite parce que vos ennuis de santé se confirment. Ouais. Vous allez passer jusqu'à 6 mois alité, sans pouvoir marcher. Vous allez d'hôpital en centre de rééducation. Votre santé ne s'améliore pas à ce moment-là.
Elle s'empire même. Et c'est vrai que j'ai passé de longs mois au centre de rééducation de Kerpap en Bretagne. Et là, c'est vrai que j'étais au milieu d'amis tétraplégiques, donc qui ne peuvent plus rien faire. Moi, je suis pas blessée médulaire, je savais pas du tout ce que j'avais, mais ça marchait pas. Et quand on peut pas tenir un verre d'eau ou s'alimenter seul, c'est vrai qu'on revoit un petit peu, on réorganise un peu les priorités dans sa tête et là où on met de l'importance. Voilà.
Avec un humour assez grinçant, vous écrivez « J'avais d'autres ambitions maritimes que de devenir un mollusque ». Dès que ça va un petit peu mieux, que vous arrivez à vous hisser sur vos béquilles et à marcher un tout petit peu, vous retournez vers ce bateau, Taratari, bien décidé à en prendre soin. Il faut dire que lui aussi, il est assez mal en point, parce que Corentin de Châtel-Perron lui a fait faire, depuis le Bangladesh jusqu'à la Ciotat, un long parcours pour tester sa capacité à naviguer. Donc il est aussi, lui, dans un piteux état. Et vous allez en prendre soin. Au début, vous y allez avec un petit chiffon. Vous dites, c'est avant tout une rééducation pour moi parce que j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose ce que je fais. Vous frottez la coque avec une brosse à dents. Vous avez du mal à quitter votre fauteuil pour vous hisser sur le pont de ce bateau. C'est pas gagné au début, hein, cette histoire.
Je pense que si, parce que ce qui était gagné, c'est que justement chaque petit geste que je pouvais faire et chaque petite attention que j'apportais à ce bateau, en fait, je me soignais aussi. J'ai eu la chance d'être entourée par des médecins aussi très intelligents et qui m'ont dit, nous, on n'y arrive pas, donc il faut que tu prennes l'air et vas-y.
Parce que personne ne sait vraiment ce que vous avez,
on ne sait pas trop comment
vous accompagner.
On est dans une errance médicale et finalement, voilà, ce médecin, Thierry Charland, qui me dit, écoute, on va te sortir de là et on ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai que je me suis mise à retaper le bateau. Alors pourquoi j'avais besoin de retaper ce bateau? C'est qu'en fait, donc il y a de la toile de jute et la coque, mais sinon les éléments, c'est de la récup. Le mât, la baume sont de la tuyauterie de cargo. Les hublots, c'est aussi tout des éléments de cargo récupérés dans les chantiers de démolition de Chittagong au Bangladesh qu'avait trouvé Corentin. Et évidemment, ça avait un peu rouillé, ça avait un peu vécu. Mmh. Donc j'ai dû remplacer des choses. Et petit à petit, en 3 mois, j'ai réussi à remettre un bateau en état.
Et vous le remettez en état avec des aides autour. Parce que là, à l'endroit où vous êtes pour retaper ce bateau, il y a d'autres bateaux en construction ou en réparation. Et là, certaines personnes passent et vous aident, amusées, intriguées par votre projet, vous, sur ce fauteuil roulant, qui essaie de réparer ce bateau, on vous donne un coup de main, on vous donne du matos, enfin, c'est la solidarité qui s'organise autour de votre projet.
C'est ça, je suis à ce moment-là à Lorient, et à Lorient, moi, j'étais arrivée dans le milieu de la course au large, donc j'ai quelques bons amis qui viennent me voir, alors, ils sont inquiets parce que je suis en fauteuil roulant et pas en bon état, ils sont inquiets pour moi, et puis, des Tanguy de la Mode qui préparent un Vendée Globe, des Bertrand Delaine sur d'autres courses, tous vont me donner un bout, une poulie, enfin des petits éléments qui font qu'à la fin, il y a énormément de solidarité à bord.
Ouais, alors il y a ceux qui donnent les coups de main, qui sont solidaires, il y a ceux qui découragent aussi, parce que y en a qui n'y croient pas, qui trouvent ça dangereux. Ouais. Tout au long de la réalisation de votre projet, des personnes vous suivent, il y a diverses réactions. Je vous propose d'écouter 3 personnes que vous connaissez, qui vous ont suivi tout au long de cette aventure. Dans l'ordre, nous allons entendre Juan Elgen, qui est rééducateur spécialisé dans un des centres de soins par lequel vous êtes passé à Kerpa. Thierry Charland, un de vos médecins, et puis le navigateur Sidney Gavinet, qui est un ami à vous.
Petit à petit, avec les échanges, avec les gens, avec tout le monde, on a commencé à connaître un peu Capucine et à se dire que finalement c'était une sacrée bonne femme, je veux dire, avec de la folie qui fait un peu... On la prenait pour une folle peut-être, mais on se disait... Elle est folle, mais elle nous fait rêver, quoi. Voilà.
C'est vrai que je l'ai peut-être encouragée dans cette voie-là en disant avoir un projet, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour se sortir d'un problème ou d'une maladie. C'est vrai que j'étais un peu inquiet pour elle, notamment quand j'avais vu le passage de Gibraltar où elle a quand même souffert et le bateau aussi. Bon, c'était presque du déraisonnable, on va dire. Mais enfin, si on faisait rien de déraisonnable, ça serait pas drôle la vie.
Moi, je me suis jamais inquiété. J'ai compris qu'il y a pas mal de gens qui s'étaient inquiétés, qui s'est dit que elle était folle et tout ça. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là parce que j'ai toujours senti, que c'était normal, quoi. Elle était sur sa route et que donc tout était en place, tout était OK.
Capucine Trochet, vous avez eu à affronter 2 types de regards. Ceux que l'on vient d'entendre sont particulièrement bienveillants. Et il y a ceux que vous avez fait rêver, vous le dites dans votre ouvrage. Et puis, il y a ceux qui considéraient que c'était une folie, de l'inconscience, les regards sombres, comme vous les appelez.
Oui, alors c'est vrai que j'ai envie de croire qu'il n'y a pas que de la malveillance dans ce regard sombre. Je pense qu'il y a une inquiétude, un report d'angoisse peut-être, parce que certains qui connaissaient bien la mer mieux que moi pouvaient avoir un jugement un peu « oh là là, mais c'est pas sérieux ». Il se trouve que les personnes là qu'on a entendues sont des personnes qui m'ont vu, que ce soit Ronan ou le docteur Charland au Sydney, qui m'ont vu au plus mal, qui me connaissent et qui savent ma manière de faire. Mmh. Je crois que pour moi, le contrat, il était simple. Si j'ai peur, si j'ai mal, si j'y arrive pas, je m'arrête. Pour moi, c'était vraiment le seul bateau à bord duquel je pouvais peut-être envisager ça, parce qu'il est petit, il est physique, mais pas puissant. Il n'y a pas de winch, il n'y a pas de voile, donc j'arrivais à me projeter là et j'écoutais pas trop ces regards. Ce regard sombre.
Après 3 mois de dur labeur, le bateau est prêt. Vous-même, vous allez mieux. En réparant ce bateau, vous vous êtes retapé vous-même, hein, Capucine Trochet. Vous appelez ce moment votre thérapie de groupe entre lui et vous. Vous testez le bateau entre Groix et Concarneau. Première nuit en mer en solitaire. Vous allez vous battez des records de lenteur pendant 33 heures. Vous fracassez l'arcade sourcilière, vous prenez des paquets de mer, vous ressortez de là en sang mouillé et vous adorez.
Ouais.
Vous vous dites, je veux, c'est bon, j'ai passé le test, je vais faire ma traversée de l'Atlantique.
Oui, là c'est vrai que on était parti de Lorient avec Corentin, qui avait une réunion à Concarneau, donc je l'emmène là-bas avec le bateau, un peu en mode taxi, et puis je reviens toute seule. Et c'est vrai que ce retour était épique parce que je suis partie. Le bateau n'était pas prêt, moi non plus. C'est-à-dire qu'il y a des bouts qui étaient tout mauvais, donc qui sont bloqués. Moi, j'étais en jean et pieds nus, alors qu'on était en hiver. Mmh. J'avais même pas de GPS. C'était n'importe quoi, mais il s'est passé quelque chose. Et là, c'était sûr, j'ai adoré.
Taratari prend la route vers la Ciotat, d'où vous partirez pour votre traversée. Vous allez nous raconter comment s'est passée cette aventure en Méditerranée, puis à travers l'Atlantique. Capucine Trochet nous emmène au bout de son rêve, contre vents et marées, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Hey!
C'était George Benson, Beyond the Sea, dans le temps d'un bivouac.
traverser l'Atlantique à bord d'un voilier écolo et c'est une femme qui se lance dans l'aventure. Capucine Trochet va quitter Marseille ce soir à bord d'un bateau fait de toile de jute.
Des béquilles comme un porte-bonheur. Pendant plus de 2 ans, Capucine, victime d'une grave maladie, s'est appuyée sur ses béquilles pour rester dans le monde de la mer. Capucine lèvera l'ancre cette nuit. La jeune navigatrice compte arriver à Miami au mois de mai. 6 mois de mer, 6 mois de solitude l'attendent. Capucine n'a aucune appréhension. Taratari lui porte chance.
Ça y est, France 3 Marseille l'annonce. Capucine Trochet, nous sommes en novembre 2011 et l'heure du départ de votre petit voilier de pêche du Bangladesh a sonné. Vous étiez si sereine, que le dit la journaliste Capucine Trochet ?
J'étais vraiment dans un état de bien-être total parce que je crois que j'étais déjà partie. Mon voyage, je pense, a commencé dans le centre de rééducation, dans mon lit d'hôpital à Kerpap. Je crois que j'étais déjà dans une autre dimension, oui.
Alors ça prendra plus de 6 mois, hein, comme c'est annoncé dans le reportage. On va le découvrir. Ce voyage va être très long. Taratari, ça veut dire quoi en bengali?
Je sens que vous allez vous moquer. Ça veut dire rapide, ouais, vite.
C'est ça. Mais c'est tout le bonheur de ce bateau, hein, c'est que il prend son temps et vous aviez besoin de prendre votre temps. Exactement. Vous n'étiez plus dans cette idée de course au large qui vous avait amené à la mer.
Oui, moi j'ai, et puis je vous dis déjà tout ça a commencé dans cette condition où j'avais des capacités physiques limitées, j'avais mal, donc tout va plus lentement et c'était un rythme de vie qui s'adaptait bien à bord.
La vitesse maximum, hein, c'est 7 nœuds, 13 km par heure pour le dire pour les non-marins. Il y avait un petit moteur, mais il est cassé, vous n'arrivez pas à vous en servir. La coque prend l'eau, hein, vous écopez à longueur de navigation. Certains vous disent que c'est du suicide, ça vous le prenez comme une agression. Pour vous, ce n'est pas un acte désespéré, c'est un acte tant espéré, cette traversée avec Taratari.
Et j'ai même entendu, après coup, ma maman dire que, quand elle en parlait, que c'était une question de survie, même. Et je pense qu'elle n'a pas tort. Moi, je n'avais pas vraiment le recul sur tout ça. J'étais vraiment dans ma bulle. Mais oui, je crois que c'était vital.
Comment se passent ces premiers jours en mer Méditerranée ?
Bien, je suis profondément heureuse, vraiment.
Ouais, vous vous sentez bien sur ce finalement mieux sur ce bateau qu'à terre, hein. Vous avez moins de douleurs, finalement, vous êtes mieux assise sur ce bateau. C'est vrai qu'on tient pas franchement debout sur ce bateau, à l'intérieur même pas assis, et ça vous va très bien.
Ça me va parce que j'avance, que je sens le vent, je sens l'air. J'avance, je voyage, je me sens libre alors que mon corps me donne la sensation inverse à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai, une grande liberté.
Une grande liberté. Vous faites régulièrement escale sur la côte espagnole avec des rencontres très sympathiques. Vous êtes adopté par des pêcheurs catalans.
Oui, ouais. C'est incroyable comme chaque escale, c'était un peu « bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Ouais. C'est une aventure, une rencontre. Et je crois que d'être seul permet d'être beaucoup plus rapidement en contact avec les autres. Et puis voilà, avoir des conversations, tous les âges, toutes les personnes, c'était passionnant.
Sur ce bateau, vous êtes bien, et le chanteur Féloche, qui a eu vent de votre histoire, l'a bien compris, il en a fait une chanson.
Ce bateau, ma bricole, c'est un peu de moi que je rafistole. Le sel sur ma peau, c'est ma pommade. Et toi, tu tiens bon, camarade. Je te confie ma vie, mon bateau ou ma béquille. Oh oh, là-bas, ici, la force des petits, du courage jusqu'à l'infini.
Alors nous avons mis sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac et puis sur franceinter.fr le clip de cette chanson avec des images de vous, Capucine Trochet, en train de naviguer sur Taratari. Ce bateau, vous avez noué des liens forts, ça devient une personne, vous lui parlez, vous le consolez, il vous console.
Oui, ça peut paraître très bizarre, non ?
Mais oui.
C'est vrai qu'il y a un lien avec l'âme du bateau. Je ne sais pas, moi, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était le seul être, la seule âme qui pouvait me comprendre. Et voilà, on était pareil et on était ensemble. Et je sais, ça fait bizarre, mais je le pense et c'est aussi intense que ça. Je le ressens comme ça.
À bord, vous aviez emporté quelques livres que vous aviez minutieusement sélectionnés. Saint-Exupéry, que vous citez dans votre ouvrage, faisait partie de cette sélection. Je vous propose d'écouter la voix d'Antoine de Saint-Exupéry, lisant les premières lignes de la préface de son livre « Terre des hommes ».
La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes.
La terre nous en apprend plus long que sur nous que tous les livres. L'homme se mesure, se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Saint-Exupéry avait son avion pour se mesurer à l'obstacle. Vous, Capucine Trochet, c'est votre bateau, c'est Taratari. C'est avec ça que vous avez affronté l'adversité.
Oui, alors c'est étrange, mais moi je le vis pas comme affronter l'adversité. Pour moi, ça a été au contraire toute une histoire d'accompagnement.
Ouais.
Et de rencontres, certains disent « partir en mer, c'est une fuite ». Pour moi, c'est vraiment une histoire de rencontre. On part se trouver soi-même et là, avec l'expérience du temps et ce rythme d'être en douceur, d'être attentif aux petites choses, je trouve qu'on comprend beaucoup mieux absolument tout.
Tout de même, des obstacles, il y en a. Quand vous croisez la route de gigantesques cargos sur votre route, que vous manquez d'être happé un peu par l'aspiration de ces bateaux, ou quand vous passez le détroit de Gibraltar, première grosse tempête, il y en aura d'autres, on y reviendra, mais déjà là, c'est un moment un peu compliqué, le passage de Gibraltar.
Disons qu'il n'y a pas de moteur à bord, donc forcément, il faut du vent pour pouvoir traverser. Là, nous étions deux avec Maxime Drénaud.
Là, vous étiez deux à bord du bateau.
Oui, là, il fallait être deux parce que c'était un moment qui allait être compliqué, une traversée, risqué, donc c'était sage, un à la barre, l'autre au réglage des voiles. Et c'est vrai qu'on a eu du vent fort et de la mer contre-courant, mais il fallait, j'ai aucun regret, on a navigué très bien, et il fallait du vent pour pouvoir être manœuvrant face au cargo.
Mais c'est éprouvant, hein, à vous lire quand même, on sent que ça a été compliqué. On aura une autre expérience de tempête un peu plus tard dans cette émission. Quand vous arrivez aux îles Canaries, après ce passage-là, vous allez passer plusieurs nuits, cette fois-ci seul, sur un volcan. Vous dites que c'est un peu comme une écluse, un sas de décompression. Vous aviez besoin de ce moment en lien avec la Terre, seul avec vous-même.
Alors c'est vrai que donc, tout ce voyage, toutes ces semaines, ces jours où je n'avais pour calendrier que le vent, la direction du vent et son intensité. Et là, j'avais une date, donc j'arrive en mai aux Canaries, qui est le début de la saison cyclonique, donc ce n'est plus le moment pour envisager de traverser l'Atlantique. Et puis j'avais cette date de rendez-vous justement à l'hôpital de Garches pour peut-être apprendre le nom de ce dont je souffrais, parce que là j'étais un peu encore dans mon errance. Et oui, j'ai eu besoin, en fait, les gens venaient beaucoup me voir sur le bateau, parfois de manière agréable, parfois de manière un peu plus désagréable, où on m'agressait avec des mots durs, de parasites de la société.
Ouais. On vous demande souvent de vous justifier. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi avec ce bateau qui ressemble à rien?
Certains montent à bord en imaginant qu'il n'y a personne. Enfin, moi, j'ai eu parfois plus peur des gens que des éléments. Et c'est vrai que je suis allée m'isoler dans un volcan qu'on avait vu un peu loin avec Maxime un jour. Là, il était reparti en France et je suis restée là, je crois 6 ou 7 jours ou plus, je sais plus, et un peu un peu en retraite. Ouais. J'ai eu besoin de ce sas pour faire le.
Pour ensuite retourner en France et apprendre enfin effectivement le diagnostic tombe. On vous dit, vous apprend le nom de la maladie.
Le syndrome des lèvres dans l'os. Donc c'est un syndrome pas facile à prononcer et surtout qui explique pourquoi je me luxe, pourquoi j'ai mal tout le temps.
On surnomme cette maladie la maladie de la douleur. Et vous demandez à votre médecin est-ce qu'on meurt de cette maladie, et il vous répond non. Alors du coup, vous allez vivre avec cette maladie. Hein. Vous le dites, je n'ai pas l'intention de me battre contre cette maladie. J'ai l'intention de vivre avec. Votre projet de traverser l'Atlantique à bord de Taratari est plus que jamais à l'ordre du jour. Mais Capucine Trochet, le plus dur reste à venir. Attention, avis de tempête pour la suite de ce temps d'un bivouac sur France Inter.
La vita è musica e fantasia, hai dato un volto alla vita mia, ed ora è tua. Il mondo è musica e fantasia, questo è importante, il resto è una bugia, che si racconta chi non ha ironia. Sua. La vita è musica e fantasia. Tienilo a mente, non ti perderai, vedrai crescendo, lo capirai, lo capirai. La vita è musica e fantasia, ma se ti perderai, che vuoi che sia, basterà viverla con ironia. Basterà viverla. Sei grande ormai, fra non molto diventerai quello che vuoi. Per me tu sei tutto, per me tu sei, tu, tu sei. Tu sei musica. Sei fantasia, sì, tu tutto sei.
Dal giorno in cui sei nato tu, c'était chanté par Andrea Laszlo des Simone sur France Inter.
La danse du thé chaud à la menthe sur un fond de musique maritime. Il est à peu près 4h du matin et je suis fascinée par la fumée du thé. Du thé chaud.
Le calme, encore un peu de calme avant la tempête avec Capucine Trochet à bord de Taratari, petit voilier de pêche fait de toile de jute et de matériaux de récupération. On l'a pas dit, mais les deux flèches qui tiennent le mât en haut, ce sont vos béquilles que vous aviez coupées, Capucine, oui. Pour fignoler. C'était la touche finale.
La fin de notre thérapie de groupe où, ouais. En fait, je marchais, donc j'ai coupé mes béquilles, j'en ai fait mes barres de flèches qui tiennent le mât debout.
Ouais. Alors, vous repartez, après être passé par Paris, après avoir appris le nom de la maladie génétique dont vous souffriez, vous revenez aux îles Canaries, où vous aviez laissé Taratari, le temps de faire ces quelques soins, et vous repartez, cette fois, vers les îles du Cap-Vert. Ça va être une navigation particulièrement compliquée. Tout commence très bien. D'abord, des dauphins, des oiseaux. Vous êtes assez émerveillé. De façon générale, vous êtes souvent émerveillé sur votre parcours. Oui. Il y a un petit moment d'inquiétude quand passe une orque, oui. Tout de même, racontez.
Oui, donc là, sur cette partie, Maxime est revenu à bord parce que je n'ai plus de pilote automatique. Et puis, alors, dans ce décor vraiment magique de naissance du monde où, voilà, les animaux et tout, on voit une énorme forme qui surgit devant et qui charge le bateau, et c'est une orque. Alors c'est très impressionnant, je trouve que c'était soudain qu'on s'est demandé si on allait se faire gober, et puis l'orque est passée d'un côté de l'autre, a jaugé le bateau, ouais. et ne nous a pas attaqué.
Elle vous frôle à quelques centimètres.
Oui, mais c'est pas un hasard en fait. Ouais. Et je pense qu'elle devait se demander ce que c'était que cet étrange ventre blanc de Taratari, et puis nous voilà, elle est partie.
C'est un moment de vulnérabilité, ces moments de vulnérabilité à bord de votre petit voilier, vous les vivez comment ?
Alors c'est fort, on se sent vulnérable et donc petit, et en même temps on se sent fort, parce que j'ai l'impression que c'est un partage, une connexion tellement profonde avec la nature, avec l'élément, avec les êtres, la vie qui nous entoure. Et cette attention portée au vivant, voilà, je trouve, nous renforce donc, dans cet état de vulnérabilité.
Un autre moment de vulnérabilité que vous racontez dans votre ouvrage, c'est cette mer déchaînée avant d'arriver aux îles du Cap-Vert.
La mort est à nos trousses et elle a pris la forme d'un vent. Un vent qui brutalise la mer et ses enfants. Il siffle et siffle encore. Ses incessants sons stridents se hissent dans les haubans comme un serpent de mer maléfique. Il se gausse, il grince sans cesse. Il nous pousse à bout. Mon quart se termine enfin. Je claque des dents de froid et de fatigue. Maxime prend la barre et je m'assois sur le plancher de la descente. Nous échangeons quelques mots quand je vois se dresser derrière lui un gigantesque mur d'eau. Attention derrière ! J'ai tout juste le temps de fermer le hublot de la descente que le colosse d'eau s'éclate contre la vitre. Je suis projeté à l'intérieur, vers l'avant du bateau. À la barre, Maxime ne peut rien faire. Cette vague particulièrement raide et immense soulève l'arrière du bateau. Elle est si grosse que le creux ne semble jamais passer, ni cesser de gagner en hauteur. Les secondes sont longues dans cette dangereuse ascension. Et puis, Taratari tombe, à pic, à la verticale. Il enfourne son nez qui plonge avant de refaire surface, au moment où une deuxième vague déferle. Elle nous pousse, nous chasse violemment, et Taratari se retrouve couché. Une troisième vague achève l'agression, nous chasse encore plus sur le côté. Je me concentre pour comprendre si nous sommes à l'endroit ou à l'envers. Peut-être les deux à la fois. Je m'extirpe de là. Nous sommes couchés sur l'eau. Mais Taratari commence à se redresser. Nous venons de faire une chute de 8 ou 9 mètres au moins. Nous nous regardons, incrédules. C'est fou. Combien mesurent ces creux? Ce ne sont plus des vagues, ce sont des monstres.
Extrait de votre livre, Capucine Trochet, Taratari, Mes ailes, ma liberté, aux éditions Artaud, lu par Cécile Cayol-Ribaud. Là, Capucine Trochet, c'est le moment le plus critique de cette aventure maritime. Vous êtes deux à ce moment-là à bord. Finalement, la plupart des longues navigations, vous les avez faites à deux, souvent par hasard. Maxime, votre ami, vous rejoint, vous fait la surprise et finalement vous vous embarquez à deux. On se dit heureusement qu'ils étaient deux.
Alors, moi, j'avais vraiment l'intention de faire tout ça en solitaire, mais c'est vrai que sans pilote automatique, avec aucun moyen d'avoir un régulateur d'allure, donc qui permettrait au bateau de barrer tout seul, ou voilà, je pouvais physiquement pas être toujours seule, et de mes amis marins, Maxime est le seul qui est accepté.
Ouais.
Et
il y en a même certains qui, même une de vos amies, ouais, qui se dégonfle au dernier moment. Elle devait embarquer avec vous et elle vous dit « je le sens pas ».
Elle a eu bien raison de le dire à temps, parce, ouais, qu'après ça aurait été compliqué de débarquer. Et finalement, Maxime, on a fait la plus belle équipe qui soit à, ouais, bord. Et voilà, alors c'est vrai que souvent on résume ça en traversée en solitaire. Bon, c'est pas le cas,
ouais,
et j'en suis désolée pour Maxime, mais bon, on sait ce qu'on a vécu,
ah oui,
partagé.
Vous voulez dire que finalement, on le gomme de l'histoire, bah, alors qu'il a une histoire importante.
Parfois, je trouve que, voilà, ouais, après, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, lui, on sait ce qu'on a vécu, ouais, partagé.
Et notamment, cette tempête, vous dites, oui, après ça, ça crée des liens indéfectibles.
Ah bah, c'est sûr que... Ouais, on a mis du temps déjà à en reparler de ces 9, ouais, jours. Donc sur 11 jours de cette traversée, il y a eu 9 jours et nuits dans la tempête. Et on ne sait pas, vu qu'on n'a pas d'électronique à bord, pas d'ordinateur, pas d'infos météo, on regarde le ciel, la mer, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Mmh. Et c'est vrai qu'on a tenu. Moi, j'ai l'impression que l'autre, dans ces situations difficiles, devient un élan vital. On veut faire bien pour le bateau, pour se protéger. Et puis, je pense que quand on... Voilà, on a toujours été bienveillants l'un avec l'autre et ça crée un lien. Oui, moi, ouais, j'aime bien considérer Maxime comme mon frère de sel.
Ouais, elle est jolie, cette expression. Maxime, ouais, est devenu votre frère de sel. Alors, après le Cap Vert, la traversée de l'Atlantique, Maxime, toujours à vos côtés, hein, pas dégoûté, même si vous ne reparlez pas, comme vous l'avez dit, hein, vous ne reparlez pas tout de suite de cette, non, histoire. Ça restera un peu une sorte de tabou, un traumatisme pour vous. Là encore, hein, quand vous traversez l'Atlantique, il y a quelques frayeurs, quelques péripéties, un petit incendie à bord, un orteil cassé, des conditions de navigation pas très confortables, et vous semblez vous émerveiller de tout. Rien n'entame votre morale.
Non, alors déjà, on s'est dit qu'après ce qu'on venait de vivre, ça ne pouvait pas être pire, parce que c'est vrai que la situation météo, enfin la situation mer est connue, voilà, dans cette partie entre les Canaries et le Cap Vert. Je dirais la suite, c'était un peu voilà, plus facile, on se fait porter par les alizés, les rameurs le font, enfin ça passe. Il y a eu des moments durs, mais qui finalement sont pas grave. Après, on a mangé froid tout le temps, donc ça c'était un peu plus dur. Oui. C'est un inconfort permanent, mais du coup, l'intensité de l'inconfort rend le côté chouette mille fois plus intense.
Et vous y êtes arrivé, hein. Vous y êtes arrivé à traverser l'Atlantique avec ce petit bateau qui n'était pas conçu pour. Au tout début de l'aventure, lorsque vous étiez au plus mal, l'un de vos médecins vous avait offert un livre de Florence Artaud pour vous encourager à vous accrocher à vos rêves de mer. La voici, Florence Artaud, évoquant son bonheur d'être en mer en 2012 sur France Inter, au micro de François Bunel.
Je crois que personne ne peut se rendre compte des sensations qu'on peut éprouver lorsqu'on est en mer tout seul, même si on est fatigué, parce que la fatigue vous met dans des états un peu seconds. Donc on est dans un autre monde, dans un univers un peu irréel, mais pourtant avec des éléments qui sont bien présents, mais on est dans le cosmos. On a un horizon qui est sans frontières, qui est pas barré. En mer, on n'a pas de limites, il n'y a pas de règles. On fait partie, on est une petite tête d'épingle dans un océan immense. Et dans le cosmos, je dis toujours que le luxe d'un hôtel 5 étoiles ne me suffit pas. Moi, je préfère des milliards d'étoiles, même si c'est en mer, crevé, mouillé, trempé, sur un truc tout dur pour dormir. Je ne trouve pas l'équivalent à terre.
Capucine Trochet, vous avez abandonné la compétition et l'idée d'aller vite en mer, mais vous partagez l'essentiel avec Florence Artaud.
Je suis très émue et touchée, heureuse de l'entendre. Et c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est tout à fait ça. C'est le cosmos. Pour moi, les étoiles, c'est vraiment, ça me donnait les larmes aux yeux. Parce que même si on était deux, on ne pouvait pas être deux sur le pont. Donc on était un dedans, un dehors avec Maxime. Donc on a vécu chacun nos traversées un peu solitaires. Et se retrouver seul au milieu de... Voilà, au milieu de tout ça, de cette vie, entre ouais, la mer, les étoiles, la fatigue, l'intensité, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de difficile à expliquer, mais tellement fort. Moi, j'ai jamais connu à terre de bonheur aussi intense.
Ce voyage remonte à quelques années maintenant. Aujourd'hui, il est encore en vous, c'est une force, il vous apaise quand vous y repensez. Qu'est-ce qui reste de ce voyage, Capucine Trochet ?
Je crois que c'est vraiment une partie de moi. J'ai continué. Alors, le livre s'arrête quand j'arrive en Martinique, mais j'ai continué après à bord. Et puis, oui, c'est présent. Je pensais, après avoir écrit le livre, je pensais retourner naviguer avec Taratari. Mais bon, la situation fait qu'on doit s'adapter. C'est pas pour le moment, donc on verra.
Mais vous repartirez. Vous repartirez oui. En mer avec ce bateau. Merci, Capucine Trochet.
Merci.
Votre livre s'intitule « Taratari, mes ailes, ma liberté » aux éditions Artaud. Restez avec nous. Nous allons retrouver dans un instant un habitué du temps d'un bivouac, Alexandre Poussin. Il vient enfin de publier le récit du long périple qu'il a réalisé à pied, en famille, autour de Madagascar. L'occasion de revenir avec lui sur cette très belle aventure.
C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence. Tes tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sort a dit, ce serait toi. Tes projectiles m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite salarier. L'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. L'homme idéal, c'est moi. Et Jacques a dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez?
demande mes trucs,
c'est quoi vos trucs,
mon secret,
vos secrets.
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis?
Comment vous faites pour être...
Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le saurais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément.
Si vous,
je vous laisse cogiter à ça.
Garniture à pizza.
Des ports, j'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherché quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal.
C'était L'homme idéal de Bertrand Burgala et c'est Muriel Pérez qui signe la programmation musicale du Temps d'un bivouac.
Le Temps d'un bivouac, Daniel Fievé.
Bon voyage, bonjour.
Misal Schmetzak. Ça fait 2 ans qu'on prépare ce voyage. 3 mois que je fabrique cette charrette. Le rêve est en train de prendre forme. Et c'est aujourd'hui le 16 octobre. Et bien qu'il devient réalité. Le départ a enfin eu lieu. C'était difficile à croire tant que c'était des mots et une idée. Mais maintenant, c'est une idée en marche.
Une vieille connaissance passe par notre bivouac. Bonjour Alexandre Poussin.
Bonjour.
Nous étions le 16 octobre 2014 avec votre épouse Sonia et vos 2 enfants, Ulysse, 7 ans à l'époque, et Philae, 9 ans. Vous vous élanciez sur les routes malgaches, à pied, avec votre charrette tirée par 2 zébus pour porter vos bagages. Toute la famille bien décidée à faire le tour de Madagascar. Une aventure qui va durer 4 ans et que nous avons régulièrement suivie dans cette émission. Et si nous en reparlons aujourd'hui, c'est parce que vous publiez enfin le premier tome du récit de cette épopée familiale, Madatrek, de Tana à Tuléar, aux éditions Robert Laffont. Alors vous y racontez le premier cinquième de l'aventure, 2 ans et demi après la fin de ce grand voyage en famille, hors du commun. Il vous aura fallu ce temps pour raconter ce que vous aviez vécu.
Oui, c'est les 1000 premiers kilomètres, mais on a eu du mal à partir. Nous aussi, on a mis 6 mois à décoller, à fabriquer la charrette. Vous en souvenez, vous nous interviewiez. Alors, quand est-ce que vous partez? Ça a été long parce qu'il a fallu la fabriquer, cette charrette, à trouver des zébus, les dresser, apprendre la langue. Et comme Capucine aussi, on devait partir tout seul. On s'est rendu compte que non, c'était pas possible. On est parti avec des malgaches qui ont été nos traducteurs, nos escorteurs, nos aides et nos bouviers qui ont conduit la charrette. Donc, ça a été un travail d'équipe très rapidement.
Pourquoi vous aviez choisi Madagascar pour ce périple en famille ?
La francophonie et puis l'unité de lieu et de temps pour un seul et même voyage. Vous savez, on avait traversé toute l'Afrique à pied, 14 pays, 14 000 kilomètres.
Alors, à l'époque, c'était avec votre femme, voilà. Sonia. Les enfants n'étaient pas encore là. Nous étions en 2001 et il y avait eu cette grande traversée à pied de l'Afrique.
Donc là, on voulait faire quelque chose de plus lent, de plus profond, une monographie sur un pays, étudier ce pays si riche et pourtant si pauvre. Ouais. Pourquoi ? Rencontrer les gens. Donc c'est une vaste enquête et chaque personne qu'on rencontrait nous donnait un élément de réponse. Ouais.
Richesse géologique, biodiversité incroyable. Donnez-nous un aperçu de la beauté et de la richesse de Madagascar.
Eh bien, il y a 69 espèces de caméléons différents, il y a 9 espèces de baobabs, dont 7 sont endémiques, il y a des coraux, il y a la plus grande barrière de corail hormis celle de l'Australie, il y a des richesses extraordinaires, il y a des animaux, les lémuriens qui n'existent que là. C'est fabuleux, on venait pour ça aussi, et puis parce que toutes ces richesses et tous ces trésors sont en péril. Donc on a voulu rencontrer des gens qui luttent, qui se battent pour essayer de défendre ces derniers isolats de biodiversité. Et puis aussi tous les autres qui essaient de lutter contre la pauvreté, la malnutrition, l'éducation, les problèmes sanitaires, les problèmes scolaires de toute une population.
Ouais. C'est ça, avec votre charrette, vous vouliez en fait relier toutes les bonnes initiatives, les opérations qui donnent un peu d'espoir pour peut-être que ça aille mieux.
Oui, alors on voulait faire notre métier de journaliste et filmer ces choses-là. Puis très rapidement, on s'est rendu compte que les images suffisaient pas et qu'ils avaient besoin d'argent. Donc on a fait du crowdfunding, du financement participatif depuis notre charrette parce qu'elle avait un panneau solaire, on avait un ordinateur à bord et on pouvait donc lever des fonds pour ces gens qu'on rencontrait, une petite bonne sœur perdue en brousse ou telle ONG qui installe des ruches ou qui fait de la spiruline ou même des entreprises qu'on filmait. On essaie de relayer leur travail parce qu'en fait... donner de l'emploi aux gens, c'est la meilleure des solutions pour le développement. Hein.
Alors tout ça a l'air très construit, tel que vous nous le racontez, et ça l'est, parce que de fait, l'aventure s'est construite, mais au départ, que d'improvisation. Et un peu de la même manière que pour Capucine Trochet, tout le monde vous disait, mais vous n'y arriverez pas, ça n'est pas possible, de toute façon, il n'y a pas de réseau routier à Madagascar, là, aucune charrette ne sera capable de passer par là où vous voulez, vous avez dû... y aller contre la vie de tous.
Ah bah oui, en malgache, on dit tsimeti. C'est oui. impossible. Et tout le monde nous disait, c'était le refrain quotidien, tsimeti, tsimeti, ça passe pas. Si c'est la lane, il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste. Et ça va pas être possible. Oui. Et donc, on essayait de faire rendre possible le quotidien. Voilà, impossible n'est pas poussin.
Quoi. Ouais, c'est la devise. C'est la devise de la famille. D'ailleurs, on dit, moi, j'apprends les langues, hein, grâce à vous, avec Capucine Trochet, on sait dire en bengali, vite, c'est taratari. Pour le malgache, doucement, c'est
moramura.
Moramura. Ouais. Et effectivement, il faut savoir prendre son temps pour explorer cette île incroyable. Alors avec les enfants, c'est aussi une histoire incroyable que vous avez fait vivre à vos enfants. Comment ça se passait pour, ne serait-ce que pour l'école, pour ces enfants pendant 4 ans, ça a duré 4 ans.
Hein. Alors c'est surtout Sonia qui s'en est chargée, mais on avait les livres de français et de mathématiques et on volait du temps au temps à la halte parce qu'en fait les zébus ont besoin de s'arrêter, de se reposer. Il faut qu'ils pèsent toute la journée, plusieurs fois par jour, ils doivent aussi ruminer. Et donc à ce moment-là, c'est la pause forcée. Hein. Le zébu lève le sabot et dit stop. Ouais. Et donc là, c'est sortez les cahiers, sortez les crayons et les enfants étudiaient. Et voilà, quand c'était une demi-heure comme ça, à l'heure du déjeuner, ou une pause le matin, une pause l'après-midi, et on s'arrêtait à 17h le soir avant le soleil, avant le coucher du soleil. Donc après, on avait toute la soirée pour travailler dans la tente. On a vécu à 4 dans 4 mètres carrés pendant 4 ans.
Et puis, alors, il y a ces cours un peu formels dans la tente ou dans la roulotte, enfin dans la charrette, pardon. Et puis, il y a aussi des formidables cours de sciences naturelles sur le terrain. Pour vos enfants, c'est un bonheur. J'en cite un exemple que j'ai découvert dans votre ouvrage, mais des petites grenouilles qui ont sur le dos l'évolution, la sélection a tracé un trait vert qui mime un brin d'herbe. Et en fait, ça les protège parce que ça les camoufle. Et là, on a un formidable cours sur la sélection naturelle. C'est formidable
dans la
enfants.
Nature, voilà, et comme ça la grenouille est invisible pour le héron qui vient, qui c'est comme ça qu'elles ont survécu. Ouais. Et donc on faisait nos humanités avec eux, on apprenait au quotidien, c'était des leçons grandeur nature. Voilà, ils ont fait les petits encyclopédistes à pied. Ouais. On était des péripatéticiens, des philosophes, on apprenait en marchant.
Et Ulysse est passé maître dans l'art de reconnaître les serpents. Il a son petit livre. Là aussi, hein, on sent l'apprentissage et à tous les coins de sentier quand il y a du sentier.
Figurez-vous qu'il a deux lézards malgaches. L'herpétologie ne l'a pas quitté depuis. Il est toujours passionné de ces espèces endémiques. Et effectivement, comme on filmait des sujets, on documentait ce que l'on faisait, on mettait les enfants en scène, ils apprenaient leurs textes, ils racontaient à la caméra. Ah oui. C'était C'est pas sorcier au quotidien, ouais. Et c'était eux qui étaient Fred et Jamy.
Et ils râlent d'ailleurs, des fois ils disent vous nous exploitez.
Hein, oui, voilà. Il y avait de la révolution, il y avait un syndicat des enfants, il fallait négocier ça se négociait en film le soir sous la tente.
Alors Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde, hein, vous nous l'avez dit. Il y a certains endroits avec des problèmes d'insécurité. Et vous racontez quand même dans cet ouvrage, vous prenez le temps de le raconter aussi, quelques frayeurs. On vous avait mis en garde là aussi contre les voleurs de zébus et vous en avez croisé des voleurs de zébus.
Oui, alors après il faut négocier avec eux, il fallait les surprendre parce qu'ils se demandaient ce qu'on faisait là avec notre charrette. Ils imaginaient plein de trafic en tout genre. Ils disent non, on est journalistes, on fait des photos, on s'intéresse à vous. Et si vous nous prenez nos zébus, on va mourir et vous serez responsable de notre mort. Et donc la police va vous poursuivre, votre vie va se transformer en cauchemar. Donc il faut leur raconter ça, les faire rire et puis leur montrer qu'on connaît leur culture. Dit vous n'avez pas le droit de voler des zébus de traction, ceux qui ont une cicatrice derrière la bosse, parce que c'est un péché, ça c'est fade, c'est tabou. Vous avez le droit de voler les zébus d'épargne, de capital, pour la viande. Mais ça, ce ne sont pas des zébus de capital, notre vie en dépend. Et là, ils éclatent de rire parce qu'ils voient, Vaza Mahai, le blanc qui connaît, le blanc qui sait, c'est étonnant.
Ça c'est pas toujours aussi bien passé. Il y a des fois où vraiment vous êtes fait des grosses frayeurs, on vous a laissé tranquille, mais le boulet n'est pas passé très loin.
Ah, mais l'épée de Damoclès était au-dessus de nos têtes. Et là, je le dis en rigolant, mais j'étais pas fier. Hein. J'avais les guibolles qui flageolaient. On n'était pas armés. On n'avait que notre bonne volonté comme arme. Et la fragilité de nos enfants aussi. Ils étaient très déconcertés de voir des enfants. Ouais. Ils ne pouvaient pas s'en prendre à nous. C'était vraiment... Là aussi, c'est fade, c'est tabou. On ne touche pas aux enfants en Madagascar.
Pendant ce voyage à Madagascar, votre fille vous glisse à l'oreille un soir avant de s'endormir. Merci les parents d'être aventuriers. C'est trop bien la vie avec vous. Sonia, votre épouse, a du mal à retenir ses larmes. Vous restez discret. C'était un pari quand même d'emmener ses enfants dans cette aventure. Et ils ont aimé, ils ont accroché.
C'était un pari, mais c'était notre vie. On ne pouvait pas vivre sans eux pendant 4 ans. Donc on était très attentifs à leur sécurité. On leur a posé plein de fois la question, stop ou encore. Et en fait, ils n'ont jamais remis en cause la totalité de l'aventure. Ils étaient heureux, on était heureux, on était ensemble.
Je rappelle qu'on avait reçu pendant une heure toute la famille Poussin juste après votre retour. On peut réécouter cette émission sur l'appli France Inter ou sur le site. Merci Alexandre Poussin, votre livre s'intitule Madatrek de Tana à Tuléar aux éditions Robert Laffont. Un grand merci à vous, Alexandre, et merci, amis auditrices et auditeurs, pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.